Buzz Mama. J'suis parti chez le rap. Laisse-moi tirer la putain de chasse, enfoiré. C'est mort à la mort, mort, mort à la mort.
Des gros bédos de weed pur au rodéo de piture. En gros, le décor de fissure. Une flamme, un déo, des brûlures. Un crâne, un étau, des coups durs. Ou des coups de mou entre les deux. Des regards qu'on ne croise que chez les loups. Éviter le suicide, le trou, pas sûr que ça va et le coup. Au pourrissant, je garderai ma gueule de fou. Alors garde tes big up, tes putains de putes en pick up. Je m'en bats les couilles de ta soupe diamantée comme pin-up. J'suis calme comme un volcan, vulnérable comme une grenade. J'rame toujours pas gros dans le renard, le fouet, la pommade. Les polars, c'est pour rap, les sales gueules et les boucaves sont pour toujours méprisables. Y'a pas d'amour dans une prison, regarde autour, c'est la pression. J'reste aveugle et sourd, ma gueule sans savoir si le perron. J'sors bien tard comme je prends l'apéro sur ton perron. Et tous mes rôles couvriront pas les râles de leurs canons. L'érosion des sentiments, du gros son des sentiers morts. L'agression des petits maîtres, des bouffons, des chiens qui mordent. L'éruption de pensées gore, les passions c'est l'eau qui dort. La caution c'est le confort, la soumission c'est le temps fort. Le frisson c'est le piment, mais le piment c'est le passé. Les frictions c'est gentiment, avoir la haine c'est dépassé. Tous les césars ont pacifié, les rapports sont plastifiés. Tout leur espoir est postiché, sinon qui kifferait, qui s'y ferait. Moi ça me fait chier. Moi je me fais chier. De la rétine à la trachée, de la tétine à la tranchée. J'emmerde le meilleur des mondes, les posters de la star qui monte. Dans toutes les caves on fera des bombes. Quand à la surface l'enfer remonte. Si j'entends rien j'ai les démons. Passe le seringue, j'égorge les mondes. Ma peur du vide je laisse sur mon trois lames dans le puits. Toujours d'aplomb. Piétine les galons, relève le menton. Des coups de crampons, petit déjà sombre. Je fuis la maison, rien à foutre de leur division. Mon cortex fait pas d'abdos. Moi j'irai braquer le frisson car tous ces portes ne font pas de cadeaux. Toutes leurs écoles sont des caveaux. Et les protons passent en bac à Clairvaux. Des vies de cabots qui mordent pour alléger le fardeau. Il est prenant le radeau, tous les rats te poussent à l'eau. Il est bon dans le cargo, mais il t'écrase le gros salaud. Ils ont bégal pour leur vago, c'est blaireau. Moi je n'aime rien à part le mollo. Putain c'est ballot, passe le fuego. Pète tes barreaux sur la gueule des puerco. C'est la tempête des barjots, bien amoché mais pas sur le carreau.
L'érosion des sentiments, du gros son des sentiers morts. L'agression des petits maîtres, des bouffons, des chiens qui mordent. L'émulsion de pensées d'or, les passions c'est l'eau qui dort. La caution c'est le confort, la soumission c'est le temps. Et le frisson c'est le piment, mais le piment c'est le passé. Les frictions c'est gentiment, avant la haine c'est dépassé. Tous les césars ont pacifié, les rapports sont plastifiés. Tout leur espoir est postigé, sinon qui kifferait, qui s'y ferait. Moi ça me fait chier. Moi je me fais chier.
Ouais, feu de tout bois, c'est parti. Feu de tout bois, émission du 28 juin 2012. Toujours 2012, on tient bon.
Un peu trop vieux pour l'impro, les frustrations. On titille le manque d'envie, les crispations. Pas que des pentes dans mon lit. Dans ma mémoire, y'a que l'oubli, j'baisse mon flux.
Tout comme l'espoir s'accroupit.
Collerie à les poteries pour dormir à le toucher. Pour foutre la merde, y'a la picole, un pack de bière avant l'école. Un sommet sur le sommet, la récolte devient faussée.
Le sommet se force comme la lunaire sur les faussaires.
Dans les poèmes, y'a des bons tirs, un peu de canard dans un bon cœur, y'a plus qu'à oublier.
Feu de tout bois sur RDWA, la radio du Diwa, www.rdwa.fr. Et pour nous téléphoner, 0952 368 531. Bon, peut-être pas maintenant, là, j'ai pas le bras assez long. Mais vous pouvez toujours passer nous voir. Micro ouvert, émission en direct, 3 Terres rue Joseph Reynaud, au premier étage, au-dessus de la crèche. N'hésitez pas à passer. Pour vos coups de gueule, vos coups de pêche, vos coups de blues ou vos coups de coups.
D'un grossiste ou d'un gros flic, j'irai bloquer ta fac et je te braquerai ton sac. Petite bourgeois sans sou, tu finiras col de prof en scène.
Tout le monde est prêt pour la tempête.
Cachez vos putes et vous emplaît. Y'a du piment dans les capotes et dans le steak, y'a des enfêtes.
Coup d'aide, pas de tempo quand les starlettes font le tasoir.
On est pour une heure et demie ensemble et on va continuer d'écouter du rap plus tard dans l'émission. Et puis je vous présenterai ce groupe et puis d'autres groupes qu'on va écouter.
Les poubelles s'entassent dans chaque parcelle de ta carcasse.
Les sphères, je les embrasse, le goût du fer quand tu m'embrasses. Coup de latte dans l'estomac, je veux pas de l'aise, connard. Comme on la baisse la broche, chaque crème est
à signaler, parce qu'on avait déjà parlé d'antipsychiatrie, là, je voulais vous signaler des textes, un recueil de textes qui existe, qui s'appelle Harm Reduction Guide to Coming of Psychiatric Drugs. Et c'est un guide pour sortir des drogues psychiatriques et qui est publié par le projet Icarus. Et quelque chose qu'on trouve sur Internet. Alors, bon, est-ce qu'il y a écrit un site Internet sur le papier que j'ai dans la main ? Oui. www.theicarusproject.net. The Icarus Project, tout attaché, theicarusproject.net. Voilà, donc on peut télécharger quelque chose qui ressemble à une brochure que j'ai entre les mains. Là, je suis sur du papier, 42 pages, et avec des illustrations bien sympatoches, et plein de textes en anglais, et il y a quelques personnes qui parlent de sortir cette brochure en français, c'est-à-dire que ceci est aussi un appel à traduction.
Quand l'inspiration fait tellement mal, tu sais plus comment la vomir. La moindre prose devient bancale et toutes les rimes soufflent martyr. Et tout le monde se balance sur des lianes de weed. Entre les buildings de Bayonne, ça tâte le vide. Mon dealer fait des prières, sûrement que mon gosse fera des bracos. Tourne-moi, y'a plein de pires, dépressifs, tendance alcoolo. L'envie de mort pète des chronos, comme les tonfas pète des thorax. Sur trottoir reste le reflet d'un putain de chic qui boit la tasse.
Mauvaise intention numéro 3, c'est aussi le magazine que j'ai entre les mains, autour du procès antiterroriste pour 6 camarades en mai 2012. C'est un procès qui vient d'avoir lieu et dont les anti-répression et lutte, police et justice, recueil de textes d'avril 2012. Mauvaise intention numéro 3 a sorti un recueil de textes qui ont été sortis tout au long de ces dernières années pour défendre 6 camarades qui sont passés en procès et dont je vous dirai le rendu tout à l'heure. Le rendu a eu lieu le 26 juin, il y a deux jours. Mais voici un rappel des faits. Du 14 au 22 mai a eu lieu le premier procès sous juridiction antiterroriste de militants désignés comme appartenant à la mouvance anarcho-autonome. C'est les termes des flics et de la justice. Les 6 inculpés, comme des centaines de milliers d'autres personnes, ont pris part aux différentes luttes sociales de ces dernières années. Mouvement CPE, révolte lors des élections présidentielles de 2007, souvenez-vous, oui. Lutte contre l'enfermement des sans-papiers, et pour la liberté de circulation, ça c'est un peu les gros points noirs de la République française en ce moment, et je crois que depuis un mois, pas grand-chose n'a changé. De manifs sauvages en sabotage, la conflictualité qui s'exprimait dans ces luttes débordait souvent du cadre légal ou des habituelles médiations politiques et syndicales. Et quand ça remue, l'État cherche à punir un petit nombre pour faire peur à tous par la police et la justice. Il tente toujours de séparer les bons manifestants des vilains casseurs, d'isoler les actes du contexte dans lesquels ils s'inscrivent et de finalement diviser pour mieux régner. Et ce qui est attaqué là, c'est aussi un ensemble de mauvaises intentions et la tentative de les mettre en pratique de manière autonome, séparée. Il suffit d'assister à une comparution immédiate pour voir que les pauvres et les marginaux sont toujours présumés coupables et très souvent condamnés. La culpabilité et l'innocence sont les deux grands concepts utilisés jour après jour, du bureau du procureur à la salle d'audience pour maintenir l'ordre social. Ces notions ne peuvent pas être les nôtres. Et chercher à s'en sortir face à la justice ne signifie pas renier ses idées et ses pratiques.
J'écris des selles en quantité, ma cécité fait des cratères. J'écris des chants de révolté, mon sentiment c'est le désert. J'écris la surdité d'un gosse qu'on a forcé à se taire. Moi j'écris l'insécurité, c'est le balai d'un lanceur de pierre. Dans ma bulle, j'ai plus de voix, c'est ridicule quand on me voit.
Isolé. La justice nous contraint à rentrer dans une temporalité qui lui est propre, celle de l'instruction, de la prison, du contrôle judiciaire et du procès. Ce temps judiciaire permet non seulement d'isoler concrètement les inculpés en les enfermant, mais aussi de les maintenir sous pression par un contrôle judiciaire, avec interdiction de se voir les uns les autres, par exemple. Enfin, l'instruction est chargée d'établir des profils qui participent à différencier les peines, voire à faire de certaines d'entre elles des peines exemplaires. Eh ben oui, fusillé pour l'exemple, en prison pour l'exemple. Allez, petits soldats.
Bordel, je crois que j'écris juste comment j'ai raté ma putain de vie.
Divisé. Des squatteurs des cages d'escalier aux manifestants, se regrouper ou s'organiser collectivement représente une menace potentielle pour le pouvoir. Les accusations d'associations de malfaiteurs, bandes, en réunion, sont de plus en plus utilisées comme des circonstances aggravantes. Cela permet d'alourdir les peines et d'inciter les gens à rester atomisés. C'est dans cette même logique qu'opère la juridiction antiterroriste, utilisée par l'État au gré des intérêts politiques du moment pour rejeter du corps social ce qui dérange et neutraliser les pratiques et pensées qui sortent du cadre institutionnel. Pour autant, les mécanismes de la justice ne sont pas les seuls outils du pouvoir à devoir être critiqués et combattus. De multiples dispositifs et institutions participent tous les jours à maintenir l'ordre social et l'exploitation, du crédit aux antidépresseurs, du salariat au contrôle CAF, de l'école à l'armée. Mais il n'y a pas qu'en Grèce que des milliers de personnes refusent l'horizon qu'impose le capitalisme et l'État. Et ce qui s'est joué au tribunal n'est pas un rapport interpersonnel entre les inculpés et les juges, mais un moment de la lutte entre la classe des possédants et les exploités, un moment de la lutte entre l'autorité et les récalcitrants. Exprimer sa solidarité, c'est s'inscrire dans cette lutte. Ce recueil de mauvaises intentions d'une je sais pas de combien de pages là, pour dire un peu, pour avoir un peu une 80 pages, un bon petit magazine. Finissait sa quatrième de couverture par un appel, un rendez-vous le 14 mai dernier à 13h30 à la 10e chambre du TGI de Paris. Et bien sûr, c'était loin, nous n'y sommes pas allés.
Des machines et marchands d'images et la magie de l'argent en marche. C'est des mouchards et l'armée qui charge. T'en vas sur mâchoire, on va à l'abattoir.
C'est la merde.
Ouais, bienvenue à la mort, je vous emmerde.
À mort les bancs là-bas qui servent, y'a pas de misère. C'est la misère, pas de mission, juste mes viscères.
Des regards vicieux, on s'y fend par le feu.
J'ai les deux pattes dans la merde, si je mets le pote autour la mort. Le son des boîtes dans la caisse, j'ai le pare-choc pour les gros porcs. Le putain, plus de terrain, le peur, rap et le gros dans les bros, mes plus de boîtes. Moi j'ai plus rien.
Du mal au bout face à l'horrible, je prends des rides. Mon rap se met ma soeur dans les berceaux pour ces déjeux d'acide. Autour, tout est taré, démocrate ou tyran. C'est la farine qui t'enrhume, welcome to son bilan.
Je me débat, je mets des baffes, je me rembarge.
T'as capté le poids dans cette plongeon du balcon.
Que de la haine, la mauvaise graine, du désespoir.
T'as craché tes poumons, t'as traché tes tourments.
Tu encore pas du parcours, la nuit noire.
J'ai lâché ma semence sur la moitié du micro.
C'est de la rage qui se décharge, qui crève ce monde.
T'as gueulé la sentence, j'ai cramé l'échafaud.
L'armure en carton, des gens morts de partout. Du hashish au quintal, des guerriers trop résistants.
Je te prête les dents pour décorer mon calibre. T'auras le temps de me parler de l'homme.
Les drômes amères et des rimes sans humour. Un homme à terre et de la whip pour les vautours.
Je te prête mes gants, plus elle est de salive.
T'auras le temps de me faire pourrir en série.
Je te pète les dents juste pour le plaisir. Que les meutes répandent comme en Tunisie. C'est que la vie est morte dans ce monde de merde. Il faut qu'on brise des portes, moi je rappe comme je gère.
Ma rang, il ne me reste que ma rage. Et la conscience sur mes carences, rien ne s'arrange.
J'attaque ma cage à la hache, ici c'est moche. Vas-y approche, j'ai des outrages dans la poche.
Je me débat, je mets des baffes, ça me rembarge.
T'as capté le poids dans cette plongeon du balcon.
Que de la haine, la mauvaise graine, du désespoir.
T'as craché tes poumons, t'as traché tes tourments.
Tu encore pas du parcours, la nuit noire.
J'ai lâché ma semence sur la moitié du micro.
C'est de la rage qui se décharge, que crève ce monde.
T'as gueulé la sentence, j'ai cramé l'échafaud.
Je me débat, je mets des baffes, ça me rembarge.
T'as capté le poids dans cette plongeon du balcon.
Que de la haine, la mauvaise graine, du désespoir.
T'as craché tes poumons, t'as traché tes tourments.
Tu encore pas du parcours, la nuit noire.
J'ai lâché ma semence sur la moitié du micro.
C'est de la rage qui se décharge, que crève ce monde.
T'as gueulé la sentence, j'ai cramé l'échafaud.
Pouze Mama, Mort à la mort, mixtape volume 1. Enregistré et produit par Dialectique Musique, partout et nulle part, dans une démarche anti-marchande. partout et nulle part, et aussi à Adi, voilà, on a croisé ces groupes dialectiques, Blues Mama, dans une petite session rap qui a eu lieu il y a 2 semaines. On en a déjà évoqué la semaine dernière, mais on n'avait pas encore récupéré les CD. CD qui étaient distribués gratuitement, là, si on venait. C'est un peu ça, hein, démarche anti-marchande. On fait sa musique, pas de copyright, plus de MySpace. Hein, des groupes qui ont commencé par avoir des MySpace, mais qui sont revenus sur ce truc de filer ses musiques gratos à des plus millionnaires, milliardaires de la planète. Tout ça pour avoir un site internet qu'on peut faire soi-même. Voilà, du coup, c'est cool.
Je le jure sur la tête d'Obama et Kadhafi. Tous ces traumas n'ont pas de paix quand les trous noirs rythment l'ennemi. Je navigue entre le bon char et la nuit. J'ai pété le radar, je suis plus qu'un zombie. Tout le monde accroupi devant l'écran, ça fait la carpette. Si peu que j'ai.
Ces groupes vont un petit peu nous guider tout au long de cette émission.
Et je combatte sur le bête. Si je rappe pour des clopinettes, c'est pour fêter la mort du proc. Ils tous et boire mes potes. Quand l'essence coule l'ambiance, les gros salopes se mettent à chier dans leur froc. Quand tout se bat en cacahuète, qu'on finit par bouffer la rate. Y'a rien qui sort, casse pas ta tête. On sait plus à garder des textes. Comme on va cramer des caisses après nos cris, plus rien ne reste à part la rage d'un club sans laisse. Quand tout se barre en cacahuète, qu'on finit par bouffer l'arrêt. Y'a rien qui sort, casse pas ta tête, on sait plus à gratter des textes. Comme on va cramer des caisses après nos cris, plus rien ne reste à part la rage d'un club sans laisse. Quand tout se barre en cacahuète.
Alors j'ai toujours pas dit ce qui se passera dans votre tout. Bah ben voilà, déjà, on a parlé de. On a évoqué un petit peu d'antipsychiatrie. Avec ce guide que je vous invite à lire en anglais pour ceux et celles qui lisent l'anglais, Coming of Psychiatric Drugs, publié par The Icarus Project and Freedom Center, qu'on trouve sur internet, et avec un appel à traduction. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce procès antiterroriste? Alors, rendu du procès antiterroriste de mai 2012. Voilà, il est là.
Il chante des chansons d'amour aboutissant.
Voici le rendu du procès contre 6 camarades qui s'est tenu en mai 2012. Rendu prononcé le lundi 25 juin à 13h30. Pour un rappel plus détaillé de l'affaire, on peut se référer à ce numéro de Mauvaises Intentions. On peut se référer à pas mal de ressources sur Internet. Et voici donc ce qui est arrivé à chacun des 6 camarades. Franck, non coupable, relaxé de tous les chefs d'inculpation, il peut demander réparation pour les 6 mois de détention préventive déjà effectués. Donc Franck, 6 mois de zonze pour rien. J'espère que tu vas les faire banquer. Yvan, relaxé pour le refus ADN, c'est refus de donner son ADN. Là, il est relaxé. Coupable des autres faits reprochés, condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis, rejet de la demande de non-inscription au casier judiciaire. Bruno, relaxé pour refus ADN, coupable des autres faits reprochés, condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. Damien, relaxé pour le refus ADN, coupable des autres faits reprochés, condamné à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Inès, coupable de l'ensemble des faits reprochés, condamné à 30 mois d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, ça fait donc 12 mois ferme. Rejet de la demande de non-inscription au casier judiciaire. Javier, coupable de l'ensemble des faits reprochés, condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis. Rejet de la demande de non-inscription au casier judiciaire. De plus, l'ensemble des scellés est confisqué. Quand on lit un peu le dossier, là, ça fait vraiment un paquet de trucs qui ont été confisqués, des ordis, des bouquins, des tout ça. Bon, hop, ça, allez, ça va aux archives de la police. À noter que la détention préventive déjà effectuée couvre la quasi-totalité des peines de prison ferme. Il y a donc peu de probabilité que l'un ou l'une des inculpés retourne en prison. Ceux ou celles pour qui il reste quelques semaines ou mois à faire seront convoqués ultérieurement devant un juge d'application des peines. A noter aussi que le caractère terroriste de l'affaire a donc été maintenu et les condamnations sont soit identiques aux réquisitions du procureur, soit légèrement allégées pour Inès et Javier, sauf bien sûr pour Franck qui est relaxé. Et le parquet, comme les inculpés, ont maintenant 10 jours à partir du 25 juin pour faire appel.
Dans un trou, la petite graine n'a plus de goût. Les gens se gagnent pour des écrous. Le temps se paye sans des éponges. Jeunesse se passe bien sous les coups. Enfant d'espace, allez méchant.
Allez méchant, allez méchant, allez méchant. crack. Les camarades sont à la rate ou dans les vapes. Les gamarotes sont dans la route, tapis les vents. Et qui parlait de sa liberté, pensait que c'était les soldes. Dis bonjour à la noite, loin du butin sale.
J'suis bien trop seul et j'suis trop crack. J'ai pas la gueule d'une carte postale.
Dans le festival des postiches, tous les mirages sont des tâches. Alors j'allume un gros spliff et j'torche mon battantage. Mon amour c'est de la rage, mes sourires c'est de la bile. Cherche la beauté d'un dérapage comme la furie d'un volcan. Ici à les vacances pour le boucan. La salle de classe pour les bouquins, pour le calaïa tapa des balkans. Un gros boom jack pour les brigands. Un putain de son crack qui claque bien battant. Un gros boom jack belligérant. Bordel rien de géant autour, c'est chiant, ça les méchants.
Ça les méchants, 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 ça les méchants. Ça les méchants, 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 ça les méchants.
Et si le rap est dead, j'm'en branle comme de ma dernière cuite. Moi j'fais de la zig comme on est fait d'azote. Et si ça va trop vite, sors ta tête la grotte à petite ville. Tout en quitte, moi je la gerbe au chiot.
Comment bouffer les miettes dans un gâteau moisi. Faut se vider la tête pour s'éloigner de la cible.
Alors parmi les menaces que font peser sur nous l'État et le capitalisme, il y a bien sûr, on est bien habitué dans la région, le nucléaire. Eh oui, eh oui. Le nucléaire, et c'était dans cette émission, eh bien, je vais vous permettre d'écouter une émission qui est passée sur Radio Méga. Radio Méga, c'est une radio sœur, on peut dire, une radio libre, une très ancienne radio libre. Hein. Je pense qu'ils sont nés à peu près dans les années 80. Radio Méga qu'on peut entendre sur Valence et la région, et sur Radio Méga. Tous les lundis à 18h, il me semble, il y a Radio Labo. Radio Labo, la radio du laboratoire anarchiste. Et là, c'est une émission, justement, qui a été consacrée au nucléaire. Une émission qui a à peu près un an, je crois, qui date de juin 2011. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. Une des raisons pour lesquelles on n'a pas parlé de certaines choses, c'est qu'il y a eu une sorte de buzz. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, en mars 2011, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de la chaîne humaine et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins parlé de ce que faisaient les nucléocrates en même temps dans la Drôme. C'est-à-dire qu'il y a, des usines qui ont ouvert, notamment l'usine Georges Besse 2, on en a parlé lors de la dernière émission. Et ça, c'est un petit peu passé sous silence. Donc beaucoup de gens quand même, je crois 50 ou 70 000 personnes, ou 60 000 personnes peut-être, se sont retrouvées immobilisées sur plusieurs centaines de kilomètres, peut-être immobilisées dans une chaîne humaine. Et oui, puisque l'État nous enchaîne, autant s'enchaîner, il y a un peu « aide la police, tape-toi dessus ». Aide le nucléaire, enchaîne-toi. Et ça a quand même permis à des gens de se rencontrer. Tout ça, on a déjà parlé de la chaîne. Mais que se passe-t-il après ? Comment c'est ? Les nucléocrates continuent leurs petites affaires. Les bio-vallées et les bio-territoires continuent de prospérer et de pousser comme un champignon sur de la pourriture. Et voilà, le territoire peut être complètement radioactivé. C'est pas grave. Ici, on est toujours dans la bio-vallée. Bon, alors, on peut quand même prendre un petit peu d'élan et voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme réalité nucléaire dans le coin, dans la Drôme. On aura un petit aperçu en écoutant cette émission qui est passée il y a un an sur Radio Méga. C'est l'émission Radio Labo, cette émission consacrée au nucléaire.
Dans mon cerveau, ça sent le gaz. Dans mon cerveau, ça sent le gaz. Dans mon cerveau, ça sent le gaz. Dans mon cerveau, ça sent le gaz.
Donc Radio Labo, il y a plein de, quelques invités de marque, un invité de marque aujourd'hui, Jean-Pierre Morichaud, aussi Pierre Rien, voilà.
Bonjour.
On discutait sur le nucléaire aujourd'hui par rapport à plein des événements assez durs, prolongation des centrales, Trichestin, tout ça. Plein de trucs, voilà. On peut commencer, poser des questions.
Moi, je voulais te parler du Tricastin déjà aussi, quand même. Donc les 17 centrales, ça me fait comme gravement peur.
17 fissures.
Enfin, 17 fissures, oui, centrales. C'est... Donc 17 fissures, ça me fait quand même relativement peur. Moi, je suis né en 81, en fait. Donc j'étais tout petit quand j'ai vu la télé Tchernobyl. Et voilà, je me demande comment ça se fait qu'avec 17 fissures, on rallonge de 10 ans. Voilà ce qu'on discutait.
L'argumentation utilisée par les gens du nucléaire, et en particulier l'autorité de sûreté nucléaire, ça consiste surtout à dire que ces fissures, c'est le dernier d'ailleurs discours qu'on entend à ce propos, c'est qu'on contrôle particulièrement, il est écrit dans leur papier, que la cuve et l'enceinte de confinement en béton qui est autour, on ne pourra pas la changer. Bon, ça, ils sont bien conscients, on a fini par leur faire dire. Donc cette cuve, elle est fissurée sous le revêtement d'inox, et ils ont une machine pour le mesurer, une machine à ultrasons qu'ils introduisent dans l'eau du réacteur quand ils arrêtent le réacteur, pour voir l'état de progression de ces fissures. Mais ils voient un état de progression à plat, c'est-à-dire à égale distance, leur mesure de fissure, la profondeur de mesure de fissure est inférieure à 2 cm.
D'accord.
Or, la cuve en ferraille, elle fait 20 cm. Donc on sait ce qui se passe, les fissures qui se multiplient en surface, on sait que elles peuvent se multiplier, elles se sont déjà multipliées, puisqu'il y en a certaines où il y en a 5, alors qu'il y a celle de Tricastin, il y en a justement 17. Bon, c'était le document que j'avais obtenu de l'ASN il y a un an ou deux, en tant que membre, puisque je suis membre de la CLIGET, c'est-à-dire la Commission locale d'information du Tricastin. Donc je suis membre associatif pour la FRAPNA et je pose des questions ennuyeuses. Bon, et la conséquence aussi, c'est que quand j'envoie un article au Dauphiné Libéré, il publie quand même mon article, puisque en tant que membre de la CLI. Bon, et puis il y a longtemps que je le fais. Et puis je représente aussi la FRAPNA, qui est une grande association régionale. Donc cette histoire de fissure, j'avais demandé des précisions au responsable de l'ASN qui était à l'époque, qui est plus depuis. Il m'avait envoyé un document, 4 pages de texte, me montrant le dessin des fissures, etc. Bon, je me suis renseigné auprès des gens qui suivaient ça, en particulier Monsieur Séné, c'est-à-dire le mari de Monique Séné, qui lui aussi est dans le problème, et puis lui suivait plus particulièrement les histoires de cuve, de tenue de cuve. Et il m'avait dit, mais tu sais, ils mesurent que sous 2 cm d'épaisseur, ils en verront pas plus, quoi. Ouais. Donc tant qu'ils vont continuer à mesurer sous 2 cm, ils verront rien, et puis ils nous diront, il n'y a rien, quoi. La solution, c'est de dire, il n'y a rien. Les fissures, elles se font principalement à l'endroit où il y a les 2 tubulures qui sortent du réacteur.
D'accord.
De la grande cuve, là. Vous savez, la grande cuve, c'est une cocotte minute avec 2 sorties sur les côtés.
D'accord.
Bon, et c'est à l'endroit où il y a la jonction, la soudure de ces 2 tubulures que ça se fissure.
D'accord.
Donc en fait, ça se fissure à l'endroit qui est déjà le plus fragile, quelque part, par conception.
Ouais. C'est surtout à l'endroit où rentre et sort l'eau pressurisée, quoi. Puisqu'on fait de la vapeur, vous savez qu'on fait de la vapeur avec de l'eau à 300 degrés. Bon, pour que l'eau soit à 300 degrés, pour ceux qui ont un minimum de notion de physique, ça s'appelle le principe de le produit du volume par la pression est constant. Ça veut dire que pour faire de l'eau à 300 degrés, il faut qu'elle soit sous pression. Donc elles sont comme dans une cocotte minute.
Ouais, à 150 bars même. 150 atmosphères.
Au niveau
150
du bouchon,
fois la pression atmosphérique.
Au niveau des 2 bouchons, en fait.
Non, c'est le couvercle qui tient. Un couvercle, c'est comme une cocotte minute. Ah. Hein, vous avez un couvercle avec des boulons tout le tour, et puis on serre les boulons, et puis on fait la pression là-dedans.
Ah.
Non, c'est très primaire comme technologie. Hein. Croire que le nucléaire, c'est si compliqué que ça. Hein, quand vous êtes au niveau de la fabrication de la pression et puis de la chaleur pour faire tourner un alternateur et une turbine, c'est simple, hein. c'est pas des atomes, hein. c'est de la chaleur, ni plus ni moins.
Uh-huh.
Donc n'importe qui est capable de comprendre, tout c'est d'expliquer. En général, les spécialistes, ils font ce qu'ils peuvent pour qu'on n'y comprenne rien.
Alors par exemple, puisqu'on en a parlé de la centrale du Tricastin qui vieillit pas mal, enfin comme toutes les autres centrales d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire deux petits mots sur les derniers incidents qu'il y a eu à la centrale du Tricastin qui sont quelque part significatifs de son état de vieillissement avancé et du fait que c'est peut-être pas très intelligent de la prolonger encore pour 10 ans en plus de ces fameuses 17 fissures en cuve?
Oui, je suis de ceux que ces événements ont beaucoup intrigué, parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi l'autorité de sûreté a tout un coup monté en épingle des événements, même à niveau 2, d'habitude c'est niveau 1, niveau 2 ça suppose qu'il y a un risque important, l'échelle elle a 7 niveaux, donc c'est le deuxième sur 7, donc... Pourquoi est-ce qu'on a monté ça en épingle tout d'un coup? On ne sait pas. Même avec le journaliste du Dauphiné Libéré, on se posait la même question. Alors lui, il n'est pas spécialiste du nucléaire, mais il se demandait quand même pourquoi. Parce que il y a déjà un mois, ou 3 semaines plutôt, il y a eu un autre incident de niveau 1 qui était tout aussi important, qui était tout aussi général, parce que la particularité de ces incidents, c'est d'être générique, comme ils se disent. C'est-à-dire que ça s'applique à tous les réacteurs. Ils ont eu j'expliquais tout à l'heure qu'ils ont dû faire leur 56, peut-être pas 56, mais au moins 40 ou 50 des 56 réacteurs en 8 ans, entre 77 et 85. Bon, ils les ont fait tous pareils. Hein, ils ont fait tous pareils parce que quand on faisait un effet de série, ben, ça coûtait moins cher et c'était plus simple. Et puis on faisait 50 fois la même pièce. Donc ils sont tous pareils, seulement l'avantage c'est qu'effectivement on les a mis en service tous en même temps, donc c'était bien, mais l'inconvénient c'est que quand il y a un pépin sur l'un, il y a aussi des pépins sur l'autre. Alors c'est ce qu'ils appellent des incidents génériques, c'est-à-dire des incidents qui s'appliquent à tous. Or actuellement, il y a 8 ou 15 jours, ils ont déclaré un incident générique de niveau 1 qui disait que les pompes de refroidissement en cas de fusion du cœur, c'est-à-dire d'emballement type Tchernobyl, bien qu'ils prétendent que ça arrivera jamais, mais je t'en fous, donc l'utilisation des pompes de refroidissement, la manière dont ces pompes se succédaient, si vous voulez, dans le refroidissement, n'était pas bien mesurée. Donc il fallait changer le système de mesure, qu'on remplacerait par un système à ultrasons. Bon, on s'est dit, ils ont décidé de prolonger les réacteurs de 20 à 40 ans, donc celui de Tricastin à 20 ans. À 30 ans plutôt, on va le prolonger à 40. Donc on a eu une étude décennale trentenaire tous les 10 ans, à 30 ans, en mai de l'année dernière. Et puis, 2009 même, je crois. Et en 2009, hein. Donc, on a dit, au vu de cette étude, qu'ils ont mis quand même un temps à l'analyser, ils ont été autorisés par l'autorité de sûreté nucléaire, quand je dis c'est EDF, à faire durer le réacteur 40 ans. Donc, on est en présence d'un réacteur qui dure 40 ans. Et puis, tout d'un coup, on nous déclare, ah bah oui, mais il faudrait faire attention parce que les pompes de refroidissement, elles sont peut-être pas bien réglées, elles sont peut-être pas bien surveillées. Et puis, il y a 3 jours, c'était autre chose. C'était des coussinets sur des moteurs diesel qui servent à fournir l'électricité au cas où il y a une panne de réseau.
D'accord.
Bon, s'il n'y a plus de courant, on ne peut plus commander les réacteurs, donc ils vont nous péter dans la figure, donc il vaudrait mieux qu'il y ait des courants. Donc il y a des groupes de secours diesel, qui fonctionnent au fioul, qui sont attachés aux centrales. Bon, et puis on s'est aperçu que les coussinets sur ces groupes de secours étaient usés. Les coussinets, c'est les trucs qui portent les axes du rotor ou du stator du moteur. Bon, mais enfin, ça c'est une usure normale. Je veux dire que, surtout quand on a décidé de mettre des coussinets au lieu de mettre des roulements à billes. Ce qui a été décidé dans les années de 77 à 85. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vit avec des technologies de cette époque. La cuve elle-même dont je parle, là, qui se fissure, elle est en acier noir ordinaire. Chez moi, quand je bossais dans l'industrie, on appelait ça de l'acier à ferrer les ânes.
Hein, ouais.
C'est de l'acier ordinaire. Donc, cet acier, il vieillit, il se cristallise sous l'effet des rayonnements de la cuve, dans la cuve. Donc il se modifie, il devient plus fragile, il devient plus cassant. Bon, il faudrait arrêter, quoi. Mais on n'a pas de sous pour arrêter. Je disais tout à l'heure que l'EPR qui est en route actuellement à Flamanville et en Finlande, il était prévu pour 2,5 milliards d'euros. Il va coûter 4 voire 5.
D'accord.
Donc si vous multipliez par 58 réacteurs qu'on a en France 5 milliards, ouais. Vous voyez que c'est pas possible. Il n'y a aucune banque et même la Caisse des dépôts ne prêtera pas ses sous à EDF. Donc EDF, il est obligé de faire autre chose. L'autre chose, c'est on décide, on fait durer ces réacteurs le plus longtemps possible.
Voilà, et on les fait du gré malgré leur vieillissement qui est
voilà.
assez important.
Et on consacre 500 millions d'euros pour les réparer, pour les remettre en état. Comme vous faites, on commençait avant avec les voitures. Avant, on faisait avec les voitures, on avait une vieille voiture qui était réparée, mais elle continue à rouler. Maintenant, on a trouvé que c'était quand même préférable d'avoir des voitures un peu plus sûres, un peu plus fiables, avec des airbags et des tas de bidules pour éviter de se tuer, que de rafistoler ces vieilles voitures. Ah ben, je peux vous dire que dans le nucléaire, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce qu'on peut pas. Donc on fait du rafistolage. Et on a décidé, le président d'EDF a loué 500 millions d'euros par réacteur pour les réparer. D'accord. Ça fait du fric quand même.
Ouais,
ça fait pas autant que d'en construire des neufs.
Ouais, mais
Bon, voilà que maintenant, il est question d'en construire un neuf. Et ça,
si
c'est la nouvelle nouvelle.
T'as parlé tout à l'heure donc des cuves qui vieillissent, et je pense que ça peut être intéressant en 2 ou 3 minutes d'expliquer ça à nos auditeurs. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sous l'action des rayonnements, l'acier des cuves il devient de plus en plus cassant, de plus en plus fragile. Donc du coup, ça a comme inconvénient entre beaucoup d'autres, qu'on peut pas diminuer la température de l'eau dans la cuve, sinon l'acier devient cassant, et quand ça va réchauffer, il risque de se fracturer plus ou moins.
Oui, t'as tout compris.
C'est exactement ça. Et donc, plus le temps passe et plus notre acier devient fragile.
Je te signale que j'ai eu du mal à l'arracher cette réponse aux gens de la Cligette pour leur faire dire qu'on maintenait l'eau à 80 degrés quand on arrêtait le réacteur.
Ouais.
C'est pas marrant de patauger dans l'eau.
Mais c'est ce que moi je m'étais dit aussi comme remarque. Ça veut dire que les gars qui travaillent sur le réacteur à l'arrêt, ils ont ils ont une cocotte minuteur en acier qui est à 80 degrés à côté d'eux.
Oui.
Ça veut dire
qui est ouverte.
Et qui est ouverte en plus.
Oui.
Donc bonjour, c'est pas très pratique. Et ça veut dire que le jour où ça passe à 100 degrés, la température en dessous de laquelle on peut pas descendre, ils vont faire quoi?
Non, mais ils montrent pas à 100 degrés, puisqu'ils sont à température ordinaire, ça va se mettre à bouillir. On n'est pas sous pression là.
Donc si on a de la chance.
La cuve est ouverte.
Oui, la cuve est ouverte.
Donc 80, c'est un maximum, quoi. Pour pas dire 100.
Donc si on a de la chance, le vieillissement de la cuve sera tel qu'avant qu'elle nous explose à la gueule, ils seront obligés de l'arrêter quand même, si on voulait être un peu cynique.
Oui, mais moi c'est ce que j'espère. Hein.
En tout cas, ce sera mieux pour les générations futures si on l'arrête avant.
Tous les matins, je me lève en priant le bon Dieu pour qu'ils soient obligés d'en arrêter une. Surtout l'important, nous ce que je cultive, je disais que quand j'étais responsable de la commission énergie des Verts, j'ai obtenu des Verts qu'on vote une sortie du nucléaire en 20 ans à raison de 2 par an. Bon, alors, vous voyez, ça faisait suffisamment pour que... Et ça, c'était en 94.
Ouais,
donc depuis, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Hein. Et c'est toujours le discours que tiennent les Verts, là, dans les campagnes électorales de Pierre Latt. Je peux vous dire, mon petit camarade Robert, c'est ce qu'il dit. Hein. Donc, mais on n'a jamais obtenu que ça commence. Et ils veulent pas que ça commence. Parce que si ça commence, après, ça s'arrêtera plus, évidemment. Les gens se sont rendus compte qu'on peut arrêter un réacteur, ils diront pourquoi vous arrêtez pas les autres.
Oui,
ils sont tous pareils,
c'est
en plus.
C'est logique.
Bon. Ils sont tous pareils. Tous été construits au même moment. Ils sont tous sur le même modèle. C'est d'ailleurs ce qui les empête, parce que quand il y a un incident, ils l'appellent générique.
Ouais.
C'est-à-dire que cet incident, il est valable pour 34 réacteurs de même type.
Ouais, ouais. Et justement, tu parlais de la nouvelle, EPR, là. Moi, j'ai jamais regardé les chiffres, même si ça me parlera un minimum. J'ai jamais regardé ce que ça a produit une centrale nucléaire, donc des types qu'on a, et un EPR là, par exemple. Combien de fois ça fait environ, à combien c'était Tchernobyl, tu vois. Ce Tchernobyl, c'est quand même irradié à 200 km à la ronde, et là, je crois qu'on en a un certain paquet à 200 km à la ronde. Donc,
je pense qu'ils ont souvent, ils ont longtemps soutenu le discours. Enfin, quand je dis ils, c'est les gens qui défendent le nucléaire, ils sont nombreux. Hein. Il y a 18 000 personnes au CEA quand même.
Ça fait du monde, ouais.
Donc, je veux dire qu'ils justifient leur présence dans le nucléaire, ça existe depuis 1945, ça n'a pas monté à 18 000 au départ, mais maintenant, c'est peut-être un peu redescendu quand même. Mais ça, c'est le CEA. Mais tu ajoutes Areva,
Kojima.
Non, Areva et Kojima, c'est presque pareil. Kojima, ça n'existe plus, c'est devenu Areva.
D'accord.
Non, mais j'en reviens à ce que tu me disais tout à l'heure par rapport à... Tu m'as posé une question sur le...
Ce que ça fait une centrale et ce que ça fait un EPR.
Ce que ça fait en...
En puissance, ce que ça...
Oh, ben, ça fait 1600 mégawatts. Le Tchernobyl, je ne sais plus combien il faisait, il devait faire 1000.
C'était pas très loin, ouais.
Et l'EPR
1600, justement.
1600, oui.
Et les centrales normales, c'est 1000...
Bah, là, celle dont on parle, la Tricastin, c'est 900.
D'accord.
Et puis les dernières, c'est 1300. Et puis celle qu'ils veulent construire, qui va s'appeler Atmea, qu'ils ont déjà appelé Atmea, c'est 1000. Et donc ils essayent de faire un peu plus petit pour que ça coûte un peu moins cher.
Ouais, plutôt que... Ouais.
Bon, alors, toi, tu me posais des questions sur... Ouais,
ben moi, j'avais plusieurs questions à te poser, donc là, on a fait un peu le tour de Tricastin. Alors, on s'était posé la question, pourquoi il y a des organisations écologistes comme Greenpeace qui ont plutôt axé leur lutte contre l'EPR, même si on est tous d'accord sur le fait que ce machin-là ne devrait pas être construit, et qui ont laissé un peu tomber de côté, enfin, qui ont laissé de côté, pardon, la lutte contre la prolongation des vieilles centrales, en se disant, quelque part, bah, si on prolonge les vieilles centrales et qu'on n'en construit pas de nouvelles, mécaniquement, le nucléaire finira par s'arrêter. Et nous, ce qu'on
se disait... Je pense qu'ils ont fait ce raisonnement. Oui.
Je pense que c'est le raisonnement qui a été fait. Or, moi, si je veux être un peu pragmatique, sans cynisme...
Oui, mais moi, on va parler. En fait, ils font les deux.
Ah, ils font les deux, d'accord.
Non, mais bien sûr. Parce qu'ils vont, ils savent bien, tu disais tout à l'heure, que la cuve finira par être... elle se fissurer un peu plus, parce qu'elle passe de l'état ductile à l'état fragile. Ça veut dire que... Le métal, j'ai discuté avec des spécialistes qui m'ont dit c'est pas vrai, on peut pas dire qu'il est en train de se tremper comme on fait une trempe d'acier, mais enfin n'empêche que il devient plus fragile.
Bon, ouais, plus cassant, ouais, notamment.
Plus cassant. Donc il est sous le flux des neutrons, hein, et donc le flux des neutrons il vient de l'uranium qui est à l'intérieur et dans lequel on fait une réaction nucléaire. Donc ces neutrons, ils sont pas là par hasard, et on ne sait pas les diviner, puisqu'ils sont là, c'est eux qui chauffent l'eau. En fait, c'est jamais qu'une bouilloire, hein, une centrale nucléaire. Vous faites monter l'eau, vous remplissez avec de l'eau et puis de l'uranium, et vous faites monter l'eau avec le flux de neutrons que produit l'uranium en faisant la réaction nucléaire, c'est tout.
D'accord.
Vous faites monter la température de l'eau. C'est exactement comme une centrale thermique classique, hein. Bon, alors les questions c'est pourquoi Greenpeace moi je suis pas Greenpeace et je suis pas dans Greenpeace. Je cotise à Greenpeace parce que je trouve qu'ils font un boulot intéressant. Moi je pense que Greenpeace, d'abord, ils ont une vision mondiale des problèmes d'environnement. En ce qui concerne le nucléaire, il se trouve que la France est leur terrain de jeu le plus important, puisque on est le seul pays à avoir autant de réacteurs que les Américains. On est beaucoup moins nombreux qu'eux.
Ouais,
donc, et puis on a d'autres, on n'a pas, il n'y a pas d'autres pays qui ont autant de réacteurs que nous. Donc, Greenpeace ne s'intéresse pas uniquement à la France. Bon, il a un problème d'avenir de la planète sur l'ensemble de la planète. Bon, quant au nucléaire. Tu me demandais pourquoi tout à l'heure il ne s'intéressait pas en particulier à la fabrication de l'uranium par Georges Besdeux au lieu de que ce soit fabriqué par,
par
Georges Besdeux, c'est-à-dire de la diffusion gazeuse. Je veux dire, pour Greenpeace, c'est un problème local, c'est un épiphénomène par rapport à toute la France. Il n'y a que la France qui a enrichi l'uranium. Hein. Les autres centrales qui sont dans le reste du monde, ou c'est nous qui leur avons fourni, et puis il y a quelques usines comme Georges Besdeux, il y en a une qui s'appelle Urenco en Hollande, et puis il y en a une ou deux aux États-Unis d'enrichissement d'uranium. Mais il y a beaucoup de ces réacteurs nucléaires qui sont à uranium non enrichi, à uranium naturel. Donc, d'abord, moi, la question que je me pose, c'est, je crois qu'on a envoyé, Michel Rivasi est allé plutôt elle-même visiter les différents stockages de déchets quand elle était députée de France, à l'Assemblée nationale, pour voir comment on résolvait le problème des déchets nucléaires à travers le monde. En général, on le fout dans un coin. Bon, donc les déchets nucléaires...
Oui, ça, c'est partout pareil.
Les déchets nucléaires dans l'ensemble de la planète, il y a quand même 400 réacteurs dans l'ensemble de la planète.
Ouais,
donc
ça fait
vous
beaucoup
avez
de déchets,
le déchet de 400 réacteurs qui se trimballent dans un coin. Ouais, c'est tout ce qu'on a trouvé à faire.
C'est
même si on... Oui, c'est monstrueux. Bon, alors moi, je comprends que Greenpeace, il s'intéresse plus à ça qu'à notre petit problème de Georges Bess 1 ou Georges Bess 2. Parce qu'on a changé, de méthode, qui était la diffusion gazeuse, pour revenir à une méthode utilisée par tout le monde, qui est la centrifugation. Et vous savez pourquoi on n'avait pas utilisé la centrifugation ? Parce qu'à l'époque, le monsieur Georges Bess, j'ai eu un patron, moi, qui l'a bien connu, qui a travaillé avec lui. Monsieur Georges Bess, il ne voulait pas qu'on fasse une méthode d'enrichissement d'uranium qui permette de faire de la prolifération de la bombe atomique. Donc il se disait, avec ces systèmes de diffusion gazeuse, qui sont très difficiles à faire, hein, ces parois poreuses-là, il faut que le 235 il aille plus vite que le 238, hein, ça ne fait pas beaucoup de différence. Hein. Alors regarde, il faut passer des fois dans la paroi. Hein. Donc il a dit à cette époque-là à ses collègues, on va utiliser cette méthode parce que c'est plus prudent par rapport au problème de la prolifération de la bombe atomique, que tout le monde puisse pas fabriquer de l'uranium enrichi. Bon, depuis, on a découvert qu'on pouvait faire une bombe avec du plutonium. On se fait de l'uranium enrichi d'autres manières. Et puis ils l'ont fait par centrifugeuse. Et puis voilà. Bon, donc maintenant, on revient à la méthode de tout le monde, parce que c'est quand même la méthode la moins chère et la plus simple.
Ouais, qui consomme beaucoup moins, ouais.
Et qui consomme beaucoup moins d'électricité, puisque je disais tout à l'heure qu'on allait se retrouver, contrairement à ce que dit notre ami Besson, là, le président notre ministre de la Drôme, Éric Besson dit qu'on va pouvoir, enfin, en faisant un nouveau réacteur, oui.
Vas-y, continue.
On va pouvoir enfin faire... en faisant un nouveau réacteur, fournir de l'électricité à l'ensemble de la Côte d'Azur. Bon, ce qui est une connerie, puisqu'on remplace Georges Bess 1 par Georges Bess 2, on va se retrouver avec 4 réacteurs et demi en rab. 3 réacteurs et demi sur les 4. Donc on a besoin d'un demi réacteur pour alimenter Georges Bess 2, et on a besoin de 4 réacteurs actuellement pour Eurodif. Quand on aura arrêté Eurodif, on aura 3 réacteurs et demi en rab.
Ouais, ouais.
Donc on pourra même vendre de l'électricité aux Italiens. Hein, ouais, et sans leur finir les déchets, on les gardera les déchets pour nous. En général, quand on vend de l'électricité à l'Allemagne, c'est ce qu'on fait.
Ouais.
Donc,
l'électricité qui est en plus.
Oui, donc il n'y a pas de crise d'électricité sur la Côte d'Azur, c'est du pipeau, ça. Il y en a eu une à un moment donné, parce qu'il n'y avait qu'une seule ligne pour y aller, et on voulait construire une autre ligne au milieu des gorges du Verdon. Ça a fait une histoire.
Ouais.
Les écolos se sont... Bon, alors, résultat, on l'a construit en dehors des gorges du Verdon, on a fait des montagnes et des creux, et puis on a dépensé plus de fric, et puis voilà. Bon.
Tu voulais dire tout à l'heure un petit quelque chose sur le nouveau réacteur Atmea, donc qui est un partenariat...
Ah oui, parce que là, actuellement, moi, je me trouve... J'ai un numéro du Dauphiné Libéré... qui est date du 23 février, qui parle d'un nouveau réacteur à Marcoule. Le Tricastin et Marcoule visent l'Atmea. Ce qui est dit là, parce que c'est le journal de Tricastin, il n'y a plus de chance qu'il soit à Tricastin qu'à Marcoule, mais enfin, les gens de Marcoule, ils en ont peut-être envie aussi. Bon, on va faire un nouveau prototype de réacteur. Alors, pourquoi est-ce qu'il est nouveau ? En ce sens que c'est pas l'EPR, parce que l'EPR, pour le moment, il a un peu trop du mal à se faire vendre, parce qu'il était prévu pour 3,5 milliards, il en coûte 4 ou 5 en Finlande. C'est pas trop grave, parce que de toute façon, c'est un marché qui est coffacé, comme on appelle, c'est nous qui payons la différence.
Oui, c'est les impôts qui payent. Ouais.
Oui, c'est pas grave. Mais par contre, quand c'est à Flamanville, ben c'est EDF qui paye. Donc, il coûte plus cher que prévu. Un certain nombre de gens ont dit qu'il n'avait pas les garanties de sécurité prévues.
Oui, il a pas mal de défauts, mine de rien.
Donc, GDF et Suez, qui sont pas EDF, mais qui travaillent quand même avec Areva, ont proposé de construire... Ça, c'était une proposition. Il est sorti au moment des élections régionales, ce truc. Moi, je me souviens, on était en train de défiler dans les régionales. Ce réacteur Atmea, il a été conçu par Areva et Mitsubishi, et pour le compte de GDF Suez. Et Monsieur Besson, vu sa nouvelle fonction de ministre de l'Énergie, lequel ministère de l'Énergie a été retiré au ministère de l'Environnement entre-temps, pour donner à Monsieur Besson, et Monsieur Besson s'avère être le chantre et le défenseur du nucléaire. Je ne sais pas si ça vous étonne, ça vous étonne beaucoup, mais moi ça ne m'étonne pas du tout, parce que je le connais en plus. Donc... Je veux dire que là, il vient de faire un interview pour le Dauphiné Libéré d'une trois colonnes pour expliquer que l'avenir, c'était le réacteur Atmea et puis que ça serait bien qu'on le fasse en Tricastin. Parce que lui, il est élu à Donzère, donc voilà, à côté.
Ouais.
Donc il a trouvé que ça serait pas mal. D'ailleurs, il s'appuie sur une lettre, faut auditeurs le sachent. Il y a trois élus locaux qui ont écrit une lettre à Borloo, à l'époque, il y a de ça un an à peu près, pour demander à ce que ce réacteur Atmea soit planté en Tricastin. Et c'est pas par hasard si Besson revient là-dessus aujourd'hui. Et ces trois, il faut quand même que vous sachiez, puisqu'on est en pleine campagne électorale, que ces trois élus, c'est le président Guillaume, président socialiste du Conseil général de la Drôme, c'est le maire de Pierrelatte, UMP Le Bellec, et un deuxième élu socialiste de Saint-Paul-Trois-Château qui s'appelle M. Catelinois.
Au moins, on voit que le nucléaire fait l'unanimité chez les élus.
Voilà, le nucléaire fait l'unanimité. Et il y a des chances pour que ça dure, d'ailleurs. Bon, voilà, on en est à Atmea.
Du coup, Atmea, si je comprends bien, c'est un réacteur moderne. C'est un peu un EPR en plus petit, en moins cher, et peut-être avec moins de problèmes à la construction aussi. Donc, il serait plus facile à construire et plus facile à exporter après, alors.
Le but, c'est bien ce que précise d'ailleurs Besson dans son entre les lignes, hein, c'est que le but, c'est d'avoir une vitrine à Tricastin. Il dit Tricastin, c'est l'endroit idéal pour faire du nucléaire, bien sûr. Une vitrine à Tricastin pour pouvoir vendre ce truc-là aux quatre coins de la planète, à la place de l'EPR. D'abord parce qu'il serait moins cher.
Non, c'est
bon. Bon, alors, vos questions, c'est quoi? Je réponds à vos questions, moi. Vous m'avez invité, non, ça va.
C'est par rapport au bio. Le bio d'un drone.
Alors une question assez intéressante, on sait que la Drôme, ou plutôt est ou prétend être le premier département qui fait de l'agriculture biologique en France.
Oui.
Or c'est aussi sans aucun doute le département sur lequel il y a plus d'installations nucléaires, que ce soit pas forcément des réacteurs, mais aussi avec d'autres installations, style l'usine d'enrichissement du Tricastin, la célèbre usine FBF CCRK à Romans qui fabrique le combustible, et dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle a des rejets assez élevés dans l'environnement. Oui. Donc est-ce qu'il n'y a pas une très très grosse contradiction entre le fait d'être un département qui se veut pionnier en agriculture biologique et qui atteint des niveaux de contamination pas forcément toujours bien mesurés, mais qui ont des risques d'être assez importants au niveau radiologique?
Si vous voulez, on l'a vu par exemple ce problème d'une manière précise et appliquée, si vous voulez, quand on a eu les débordements de Socatry à Pierrelatte, ouais. Que l'eau pleine d'uranium est allée se répandre dans les cultures maraîchères. Et moi, je me souviens que les maraîchers, ils gueulaient, hein, ils n'étaient pas du tout d'accord pour qu'on pollue. On a fait une grosse étude, sur laquelle d'ailleurs je vais aller faire des comptes rendus demain, pour savoir si c'était vraiment nécessaire de faire cette étude. On a fait une grosse étude pour savoir s'il y avait de l'uranium dans la nappe phréatique de Tricastin. Bon, la nappe phréatique de Tricastin, c'est parce que j'ai posé la question qu'on m'a précisé qu'elle était au plus profond de 4 mètres. Donc c'est pas une nappe phréatique, c'est une nappe alluviale.
Voilà, ouais, donc elle est plus contaminée qu'une nappe phréatique.
Elle est entre le Rhône et entre le canal de Donzère, coincée entre les deux, et c'est ça la plaine de Tricastin. Donc là-dedans, il y a des gens qui font de la culture maraîchère. Voilà, ça limite la possibilité de faire de la culture maraîchère sur des coins comme ça. Bon, d'autre part, c'est vrai que... Mais vous savez, les gens qui font du bio sur la Drôme, ils sont pas très... Enfin, c'est pas leur problème. Ils cherchent à vendre leur bio, ils vendent le bio par la Drôme. De toute façon, le bio, vous êtes comme moi, vous savez que... on limite le nombre de cantines scolaires bio parce qu'il n'y a pas assez de gens pour les fournir.
Oui,
donc,
c'est vrai.
Il faudrait qu'on puisse cultiver du bio partout, pas spécialement en Drôme. Mais enfin, qu'il y ait une cohabitation du Drôme et du bio et du nucléaire. Oui.
Ouais, mais est-ce qu'on se risque
pas de... Nucléaire, il y en a partout. Hein. Quand je vous racontais l'histoire de l'étude cancer qu'on a fait faire autour de Pierrelatte, la conclusion de Mme Thébault-Moni, qui est spécialiste à l'INSERM, c'est de dire c'est pas étonnant que vous n'ayez rien trouvé, parce que la France, elle est toute polluée également par toutes les installations nucléaires de France et de Navarre. Donc elles sont toutes bien réparties. Donc tout le monde a un petit peu de radioactivité à son actif.
Oui, donc si je comprends bien, personne n'est à l'abri de la radioactivité générée par l'industrie nucléaire en France, en fait.
Non, vous vous procurez. Je vous assure, elle vient de sortir. Il y en a même deux. Il y en a une qui est faite par Greenpeace et il y en a une autre qui est faite par le réseau sorti de nucléaire. Vous vous procurez la carte de répartition. C'est une grande carte que moi j'ai mis à l'intérieur de mon placard. C'est une grande carte sur laquelle il y a toutes les installations nucléaires qui existent en France. C'est bien réparti. Il y en a partout.
Oui, c'est vrai qu'il y en a un peu partout. Ouais.
Il n'y a pas que des centrales nucléaires. Il n'y a que 18 sites de centrales nucléaires. C'est pas D'accord. beaucoup, 18. Ah ouais. Hein.
Non.
Bon, c'est pas beaucoup. Mais par contre, vous regardez de plus près, tout là où il y a des usines qui fabriquent le combustible, il y a en amont du combustible pour le fabriquer.
D'accord.
C'est les usines d'enrichissement qu'on connaît à Pierrelatte.
Par exemple, oui.
Bon, par exemple. Et puis vous avez en aval celles qui font du retraitement, comme ils disent, ouais. qu'on a à La Hague et ailleurs. Bon, et puis y a d'autres usines qui utilisent la radioactivité pour faire autre chose. Donc, il y en a partout.
Ouais, oui, au final, ça fait beaucoup.
Ouais, d'ailleurs, final, on parle des centrales. Bon,
je ne pense pas qu'il y en a où il y a du bio, seulement où il y a du bio, si vous voulez. Je pense qu'effectivement, le long du Rhône, on est particulièrement gâté parce qu'il se trouve qu'on a besoin du Rhône pour refroidir les réacteurs. J'ai dit dans ma réponse à Besson là, qu'il y en avait 14 réacteurs.
Oui, c'est bien suffisant.
C'est bien suffisant. Donc, il y a 14 réacteurs, ça représente 3-4 par centrale, ça doit faire 5 ou 6 centrales. Bon, mais il y a 14 réacteurs qui sont refroidis par le Rhône, c'est bien suffisant, quoi.
Ouais.
Parce que le Rhône, en plus, il est réchauffé. Hein. Maintenant, ouais. il a l'autorisation de monter à 22 degrés. Hein.
D'accord, 22 degrés, c'est pas si mal.
Hein.
Du coup, ça, en plus de la pollution radioactive, on peut carrément parler de pollution thermique par les centrales, parce que l'écosystème du Rhône est modifié par ça.
Oui, bien sûr, mais vous pouvez en parler avec les pêcheurs, ils vous en diront quelque chose.
J'imagine.
Parce que quand ils pêchent du poisson tout chaud, mais l'été, c'est pas tout le temps. Mais au moment de la canicule qu'il y a eu en 2003, je crois, c'est ça.
2003, oui, c'est ça.
Au moment de la canicule, EDF a obtenu de rejeter de l'eau des centrales à 23 degrés ou 25 degrés.
Ouais,
et puis après, ils ont demandé la généralisation de l'autorisation. Alors ça veut pas dire qu'ils rejettent toujours de l'eau à 25
ouais,
degrés.
Mais ils peuvent
si même il y a une nouvelle canicule.
Ouais. D'accord. Ouais. Je vais en profiter pour faire une petite remarque pour nos auditeurs qui ne seraient pas au courant, puisque là on a parlé des centrales et des installations nucléaires. C'est vrai que les installations nucléaires sont beaucoup moins connues. En général, elles sont beaucoup moins célèbres parce qu'on s'est concentré un peu sur les centrales. Mais ça peut être intéressant de savoir, et on s'en est rendu compte notamment il y a 2 ans quand il y a eu les problèmes de reversement de déchets un peu trop importants à la socaterie, etc., que bien souvent les installations nucléaires, les usines, soit qui servent à fabriquer le combustible, soit au retraitement, ont des autorisations de rejet qui sont bien plus élevé, voire énormément plus élevé que les centrales. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, même si c'est pas l'impression qu'on aurait a priori, on est beaucoup plus pollué si on habite à côté d'une usine nucléaire lambda que si on habite à côté d'une centrale. Et l'explication est que la centrale a moins d'autorisation, qu'elles sont plus surveillées quelque part, puisque c'est ça qui a fait peur et qui, historiquement, a généré le fort mouvement antinucléaire. Par contre, globalement, il vaut peut-être mieux habiter à côté d'une centrale qu'à côté d'une usine d'enrichissement ou d'une usine de fabrication de combustible, style FBFC à Romans, quoi, qui, elle, a des autorisations de rejet, donc en situation normale, hein, pas accidentelle, qui sont peut-être 100 fois ou 1000 fois ou 10 000 fois plus élevées pour certains composés qu'une centrale.
Oui, les gens qui habitent à côté de La Hague, ils ont créé une association qui s'appelle la CRO, qui est une association analogue à la CRIRAD. Et ils passent leur temps à faire des mesures sur les autorisations de rejet de La Hague, en particulier dans le domaine du tritium. Alors le tritium, les spécialistes du nucléaire, moi j'en connais un avec qui je travaille de temps en temps, qui me dit, mais le tritium, moi j'ai bossé toute ma vie là-dedans, j'en ai plein les os, non pas trop les os, parce que ça doit aller plutôt dans le sang. D'accord. Mais vous voyez, je me porte comme un charme. Bon, il me dit pas si ses copains qui sont morts, mais enfin bon, lui, ouais. Il est toujours là. Mais à un moment donné, moi, j'ai dû bagarrer, parce que finalement, ça a tourné court, parce qu'il était question de rejeter plus de tritium dans le Rhône.
D'accord.
Qu'on en rejette actuellement, parce que les autorisations de rejet sont...
De toute façon, ils veulent tout monter, de toute façon.
Oui. Alors, j'ai eu une discussion, je me souviens, à l'époque, avec un directeur général. C'était un directeur général, oui, c'était le haut commissaire à l'énergie atomique. Donc, il me disait, mais monsieur Morichaud, vous comprenez rien. Vous êtes vraiment nul. Ça se dilue parce que vous avez 14 réacteurs le long du Rhône, vous avez une dizaine d'installations, et puis même si elles rejettent toutes la même chose, ça se dilue. Vous êtes à Marseille, vous l'avez quand même dans.
Oui, on finit par le boire.
Vous l'avez c'est pour tout le monde. Mais non, mais vous voyez, on me faisait passer pour un bonnet qui n'avait rien compris.
C'est...
Bon, je veux dire que ces problèmes de pollution. Sont grands, pas toujours par ce qu'on croit, quoi.
Ouais, parce que.
Bon, à un moment donné, je disais que la CRIRAD a fait des mesures de plutonium dans les bouts du Rhône, parce qu'on en trouvait au barrage de Val-la-Brègue, et même on en trouvait même. Il a été question, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'il y en ait dans les rizières.
Et dans le sel aussi de la Camargue.
Sel de la Camargue. Bon, puis après, ça s'est étouffé. Vous savez, c'est le genre de truc. Les journalistes, ils s'en occupent un moment, puis après, il y a un quelconque événement plus important qui arrive, on passe à autre chose, et puis les gens n'y pensent plus.
Mais c'est vrai qu'en France, on parle pas beaucoup des problèmes de contamination par le nucléaire, et ça me fait penser que...
On parle pas du problème de contamination par le PCB. Si vous allez lire mon site internet...
Je suis d'accord.
Où je parle de pollution tout le long du Rhône, mon site, il s'appelle Tricastin. Je vous demande de prendre un crayon pour ceux qui nous écoutent, on va en profiter.
Allez-y.
Il s'appelle tricastin-environnement-santé.org. O-R-G. Bon. Dans ce site, je raconte, j'ai 5 ou 6 paragraphes ou 7 sur le Rhône. L'environnement du Rhône, quoi. Donc, les centrales nucléaires, il y a un chapitre sur les centrales nucléaires, puis après, je parle du PCB, je parle d'un certain nombre d'autres produits qui polluent le Rhône, c'est une vraie poubelle, hein.
Oui, c'est une vraie poubelle, ouais.
Donc, il faut que les gens le sachent, puis s'ils veulent aller se renseigner, ils vont lire ce que j'ai raconté là-dessus. Bon, je veux dire que c'est la pollution, c'est. Moi, je m'aperçois, je suis sorti un petit peu du nucléaire pour ce qui est du Tricastin, dans mon histoire de site web, là, parce que je voulais montrer que l'ensemble des bords du Rhône, enfin du Tricastin en tant que riverain du Rhône, ils étaient tous plus ou moins exposés à un certain nombre de pollutions, surtout par l'eau.
Tout à fait, ouais.
Et moi, je voulais te poser une question, parce que tout à l'heure, on parlait justement de avant, pendant la centrale et après. Mais déjà, un, il y a le transport qui me paraît plus que douteux.
Oui.
Mais dont deux, ensuite de ça, que ce soit avant ou après, ils ont droit à je ne sais pas combien de fois de radiation. Et nous, on connaît donc le plutonium, l'uranium, je crois qu'il y a le beryllium. Mais il y en a combien en tout de ces éléments qui sont radioactifs et qui sont à peu près dangereux?
Beaucoup.
Beaucoup. Parce que...
Dans mon petit livre là que vous êtes en train de regarder avec... Avec intérêt, je me suis efforcé, dans les deux dernières pages, de publier l'échelle de radiotoxicité des radioéléments.
Ah ouais.
Parce que moi, j'en avais assez qu'on me mette tous les radioéléments au même niveau. Parce que ça va de ce qu'il y a dans les maisons, là, du
radon.
Du radon, merci. Ça va du radon au plutonium. Hein, j'ai fait une échelle de degrés de radioactivité et d'échelle de toxicité des radioéléments. Tu vois qu'il y en a quand même flopé.
Ouais, il y en a un bon paquet. Clair, ouais.
Bon, et ça, c'est tout ce qu'il y a dans les déchets nucléaires. Parce que principalement, la toxicité des radioéléments et de la radioactivité sur la planète vient de l'industrie nucléaire. S'il n'y avait pas d'industrie nucléaire, il n'y aurait pas de tous ces déchets-là.
Ouais, ça c'est... Ouais.
Bon, ça vient de nulle part ailleurs.
Ouais.
Le plutonium, qui a été longtemps ma tasse de thé, mais je commence à me fatiguer, parce que tout le monde s'en fout. Mais le plutonium, c'est quand même un produit qui, s'il n'y avait pas l'industrie nucléaire sur la planète, n'existerait pas.
D'accord.
Et ça nous ferait un sacré problème
en
moins.
Nous ferait un problème en moins, parce que c'est de l'ordre de... il en faut un centième de microgramme pour avoir un cancer, si tu le respires ou si tu l'avales.
D'accord.
Bon. L'autre jour, j'étais au navire, au cinéma, et il y avait une conférence sur l'astrologie, et j'ai demandé à l'astrologue si... à l'astrologue, c'est bien ça.
Oui, c'est une astronomie, non, qui avait une conférence.
Oui, c'est une astronomie,
pas l'astrologie. L'astrologie.
Voilà, excusez-moi. Une conférence sur l'astronomie, j'ai demandé à l'astronome si on trouvait du plutonium dans la stratosphère, dans les planètes, puisqu'on parlait d'Uranus, on parlait tout. Mais il m'a dit non, monsieur, l'uranium, ça a une durée de vie. Le plutonium, même l'uranium, oui, mais le plutonium a une durée de vie trop courte.
D'accord.
Hein, 22 000 ans, c'est trop court à l'échelle des planètes.
Ouais, ouais. Hein.
Donc à 22 000 ans, il n'y en a plus. Voilà. Par contre, nous, 22 000 ans, c'est à notre échelle.
Hein, oui, même un peu plus qu'à notre échelle.
On durera plus de 22 000 ans, vous et moi, et puis les autres. Hein. Ouais, donc on est en train d'inventer sur la planète un matériau qui est le plutonium. Il y en a quand même 1% dans les 1500 tonnes de combustible usé qu'il y a dans nos centrales en France.
D'accord.
On produit 1500 tonnes de combustible usé dans les centrales en France. Ouais. Et dans ces 1500 tonnes, il y a 15 tonnes de plutonium. Ça veut dire que tous les ans, on met 15 tonnes de plutonium sur la Terre. Et on ne sait pas le mettre ailleurs. Bah on ne sait pas le détruire. On ne sait pas quoi en faire. Vous savez ce qu'on fait ? On le fond dans des verres. Non, dans du verre.
D'accord.
Du verre.
Pour le vitrifier.
Ouais. Ce qu'on appelle vitrifier, c'est pas vitrifier, c'est noyé dans du verre.
Ouais, ouais.
Bon, et puis après, ce verre, ben, on le met dans des trous. Voilà, c'est ce qu'on fait d'ailleurs à La Hague en ce moment. Il y a plein de piscines, il y a plein de machins où il y a des groupes à paquets de verre. Et puis un jour ou l'autre, on finira par le mettre dans la Meuse, là, dans le trou qu'on a creusé pour le mettre sous terre. Bon, mais les 400 autres réacteurs qu'il y a dans le monde, ils font pas ça. Donc le plutonium qu'ils produisent, parce qu'ils en produisent aussi, quel que soit le type de réacteur, ils transforment l'uranium en plutonium. Hein, c'est l'essentiel de la réaction. Ce plutonium, il est partout.
Ouais, il s'est répandu de partout, ouais.
Ouais.
15 tonnes par an, tu disais, c'est ça ?
Oui, il y a 500 tonnes qui attendent à La Hague, à peu près.
C'est un truc.
Ça fait beaucoup de cancers, entre autres.
Ah, ouais, ouais, c'est.
Alors, oui, enfin, ils attendent à La Hague, ou ils attendent, ce qui est plus grave, ils attendent éventuellement pour faire la bombe atomique. Hein. Ils sont aussi. Le plutonium de La Hague, il sert à faire la bombe française, hein, faut pas croire.
Ah, oui, il sert à faire des essais aussi dans les bombes pour tout ce qui est réaction chimique.
Oui,
bien sûr. Donc.
Pour conclure, Jean-Pierre, donc ouais. On va revenir sur ce qui nous a amené ici, c'est-à-dire la centrale du Tricastin. Mm. Est-ce que tu aurais une idée à lancer pour pouvoir fermer cette centrale vieillissante, pour ne pas dire autre chose, le plus vite possible ? Se mobiliser ? Quoi faire d'autre ?
Se mobiliser, moi c'est ce que j'essaye de faire avec mon blog, avec les papiers que je publie dans le Dauphiné ou ailleurs. Mais je pense que il faudrait que les gens prennent conscience que la solution qui consiste à les faire durer 40 ans ou 60 ans, même comme il est question, c'est inacceptable, quoi. C'est inacceptable parce que finalement, tant qu'il n'y en aura pas une qui nous aura pété dans la figure, on ne fera rien, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. C'est on joue avec le feu nucléaire jusqu'à se brûler, quoi.
Oui, c'est ça.
Et c'est dramatique.
Et il y a beaucoup de gens qui en vivent. Allez dire aux gens de. Moi, j'ai mon copain Robert, il fait la campagne à Pierre-Latte en ce moment, la campagne des cantonales. Allez leur dire là-bas qu'il faut s'arrêter de faire du nucléaire. Qu'est-ce qu'ils font, les gens ?
Qu'est-ce qu'ils feraient, ouais. C'est vrai que c'est pas facile comme problème.
Une question comme ça, là, sur la Drôme, il y a combien de sites nucléaires en tout, à peu près ? T'as une idée ?
Ça, il y a des petits et des gros, quoi. C'est difficile à dire. Un type qui utilise la radioactivité pour faire des radios, soit industrielles, soit pour les gens. Déjà,
de gros sites, quoi.
Voilà, oui, il commence où le gros site ?
Ouais, il commence où ? Il y a une bonne demi-douzaine de gros sites, on peut dire ça, en étant à peu près sûr, quoi.
D'accord, ouais.
Oui, c'est ça, il y a six gros sites.
Six gros sites.
Ouais, bon, mais je veux dire que la radioactivité, le problème, c'est qu'il y en a partout.
Oui, il y en a partout.
Malheureusement.
Et puis il faudrait que pour les gens du nucléaire, il faudrait que ça devienne normal, quoi. Et alors moi je m'efforce depuis que je m'en occupe à ce que ça soit pas normal. J'ai commencé à Saclay, j'avais 20 ans et puis je continue.
Mais heureusement, on est quand même quelques-uns à continuer le combat contre le nucléaire, quoi.
Oui.
Jamais assez nombreux, mais pour laisser une autre terre à ceux qui vont venir derrière nous, quoi.
Ouais. Faut les laisser où on les est. On les emmène.
Bon, Jean-Pierre Morichaud, merci d'avoir répondu à nos questions.
Bonne journée à vous. Et puis merci à toi.
Merci bien, bonne soirée. Bonne soirée à nos auditeurs aussi.
Ouais, juste pour finir rapidement, donc on va tout le monde a dit au revoir. Donc, j'étais...
grand esprit dormait dans le rien. Son sommeil durait depuis l'éternité. Et puis soudain, il ne sait pourquoi, dans la nuit, il fit un rêve. En lui gonfla un immense désir et il rêva la lumière.
Ce fut le premier rêve, la toute première route.
Longtemps, la lumière chercha son accomplissement, son extase. Quand finalement elle trouva, elle vit que c'était la transparence.
Et la transparence régna.
Mais voilà qu'à son tour, ayant exploré tous les jeux de couleurs qu'elle pouvait imaginer, la transparence s'emplit d'un désir d'autre chose. À son tour, elle fit un rêve. Elle qui était si légère, elle rêva d'être lourde.
Alors apparut le caillou. Et ce fut le deuxième rêve, la deuxième route.
Longtemps, le caillou chercha son extase, son accomplissement. Et quand finalement il trouva, il vit que c'était le cristal.
Et le cristal régna. Mais à son tour, ayant exploré tous les jeux lumineux de ses aiguilles de verre, le cristal s'emplit du désir d'autre chose qui le dépassait à son tour.
Il se mit à rêver.
Lui, qui était si solennel, si droit, si dur, il rêva de tendresse, de souplesse et de fragilité. Alors apparut la fleur.
Et ce fut le troisième rêve, la troisième route. Longtemps,
la fleur, ce sexe de parfum, chercha son accomplissement,
son extase.
Quand enfin elle la trouva, elle vit que c'était l'arbre.
Et l'arbre régna sur le monde. Mais vous connaissez les arbres. On ne trouve pas plus rêveur que les arbres. L'arbre, à son tour, fit un rêve. Lui, qui était si ancré à la terre, il rêva de la parcourir librement, follement, de vagabonder au travers d'elle.
Alors apparut
le ver de terre, et ce fut le quatrième rêve, la quatrième route, longtemps. Le ver de terre chercha son accomplissement, son extase. Dans sa quête, il prit tour à tour forme du porc-épic, de l'aigle, du puma, du serpent à sonnette. Longtemps, il tâtonna, et puis un beau jour, dans une immense éclaboussure. Au beau milieu de l'océan, un être très étrange surgit, en qui toutes les bêtes de la terre trouvèrent leur accomplissement, et ils virent que c'était la baleine.
Longtemps, cette montagne de musique régna sur le monde, et tout aurait peut-être dû en rester là, car c'était très beau. Seulement, voilà. Après avoir chanté pendant des lunes et des lunes, la baleine, à son tour, ne put s'empêcher de s'emplir d'un désir fou. Elle, qui vivait fondue dans le monde,
elle rêva de s'en détacher.
Alors brusquement, nous sommes apparus, nous, les êtres humains, car nous sommes le cinquième rêve, la cinquième route en marche, vers le cinquième accomplissement. La cinquième extase.
Et c'est quoi cette cinquième extase dans laquelle nous marchons?
La légende ne le dit pas. Seules les baleines le savent. Mais le reste du conte n'a pas encore été écrit. Une chose pourtant semble certaine, mes amis. Si nous voulons trouver notre propre accomplissement, notre propre extase, et peut-être passer à la suite du jeu, il nous faut écouter et respecter, comprendre et aimer les accomplissements des rêves qui nous ont précédés, aimer et comprendre la lumière. Le cristal, l'arbre et la baleine. Et ici, je vous dis, faites très attention, car voyez-vous, dans la moindre couleur, toute la lumière est enfouie.
Dans tout caillou du bord de chemin, il y a un cristal qui dort. Dans le plus petit brin d'herbe, sommeille un baobab.
Et dans tout ver de terre se cache une baleine. Quant à nous, ne sommes-nous pas le plus bel animal? Non, nous ne sommes pas le plus bel animal. Nous sommes le rêve de l'animal. Et ce rêve est encore inaccompli. Mm-hmm.
Le cinquième rêve est un conte qu'on trouve dans le livre de Patrice Van Hersel qui s'appelle le cinquième rêve, le dauphin, l'homme, l'évolution. Un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ici, c'est Vincent Copier qui nous accompagnait, guitare acoustique, banjo et objet aussi. Et c'est un disque qui est enregistré à l'ICAM en décembre 2011 et avec une superbe pochette sérigraphiée par Fabien Enforte et Vincent Copier aussi à Glandage en janvier 2012. Vincent est membre du Grand Chahut Collectif. Ce disque est ainsi que son show s'appelle Gratte. Gratte comme... comme quand on gratte. Tout de suite avant, on avait écouté l'émission Radio Labo, une émission qui date de juin 2011 sur le nucléaire. Radio Labo qu'on peut écouter tous les lundis à 18h ou 18h30 sur Radio Méga quand on est à Valence ou en direct sur Internet. C'est une émission sans podcast, qu'on se le dise. Et juste après, qu'est-ce qui va se passer? Rendez-vous, ouais, bah voilà, ça m'est revenu en tête là, à 18h tous les samedis sur la place pour discuter un peu de cette place. Du coup, c'est des milliards, des millions, allez, 2 millions, plus de 2 millions d'euros dépensés pour une nouvelle architecture, bien sûr, ultra naze, parce que quand même faire des trucs à 2 millions d'euros dans le Diwa, c'est un peu, on se demande quoi, alors qu'on a des moyens, éco-construction, permaculture, récupération, utilisation de l'existant, un peu de faire d'autres façons que de dépenser un max de thunes et de s'endetter pour 10 ans, 15 ans, 20 ans pour fabriquer une place qui est surtout adaptée au tourisme. Le tourisme, un grand thème qui pourra peut-être, si on arrive à le mettre en place, nous servir de fil rouge tout cet été, puisque voilà, le tourisme est aussi important. Du coup, quoi en faire, hein, qu'est-ce qu'on peut faire de ça, quoi en faire, c'est-à-dire dans une perspective révolutionnaire, bien sûr, parce que c'est bien de voyager, de voir du pays, de voir du coup qu'est-ce qu'on propose. Là, pour l'instant, la mairie de Die propose une place à plus de 2 millions d'euros. Qui dit mieux? Alors, pour en discuter, tous les samedis à 18h, rendez-vous sur la place. Il y a aussi sans doute d'autres rendez-vous, d'autres discussions. Plusieurs personnes et plusieurs collectifs qui se penchent sur la question. C'est sûr qu'on trouvera de quoi discuter. Ouais, de quoi discuter. Alors on va revenir là, on va regarder un petit peu quelle heure il est. Bah voilà, il est tout cela nous a tranquillement mené jusqu'à bientôt 9h. C'est le disque qui nous a servi d'accompagnement pendant toute la première partie de l'émission, Mort à la mort de Pouze Mama, et le morceau là qui va nous servir. Hop, voilà, c'est qui là? On monte le son. Ah. le morceau qui va nous permettre de finir cette émission, c'est la mixtape volume 2 de Dialectique. Et Dialectique, bah, toujours ces rappeurs qu'on a eu le plaisir d'accueillir, d'aller voir, et puis d'accueillir Adi il y a deux semaines maintenant. Hein. Ce morceau, Je n'attends plus rien. Je vais vous le laisser écouter un petit peu, un moment, et puis allez, on laissera filer sur le reste de l'album. Donc, de la Benedette, toujours enregistré et autoproduit par Dialectique Musique. Sisyphe et Pouze Mama dans une démarche anti-marchande. Anti-marchande, bah, ça veut dire que là, c'est des disques gratuits. Hein. On va à leur soirée et on récupère des disques avec des jolies pochettes, des têtes de mort qui semblent un peu mexicaines. Et puis, en fait, voilà, là, c'est un test de ces disques. Ça fonctionne. Feu de tout bois sur Radio Diwa, 28 juin 2012. C'est fini. Ciao. Mais bien sûr, à jeudi prochain, comme tous les temps.